Vous écoutez RTL.
Pour la première fois, une technique scientifique permet de prédire la sortie d'un coma. Ce matin, expliquons précisément la portée de cette technique et ce qu'elle pourrait apporter à nos hôpitaux.
RTL Matin, 3 minutes pour comprendre.
Bonjour Louis Puybasset.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes le chef du département d'anesthésie-réanimation de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. C'est vous qui avez piloté cette étude. Expliquez-nous d'abord concrètement vos travaux. Tout d'abord, de quel type de coma parlons-nous ?
Alors, dans cet article, on s'est concentré sur les comas qui font suite à un arrêt cardiaque.
Oui.
Mais cette technique, on peut l'utiliser aussi dans les comas qui font suite à un traumatisme crânien ou à une rupture d'anévrisme ou même à un hématome intracérébral.
Donc des choses extrêmement graves. Qu'avez-vous observé ? Et qu'allez-vous observer ?
Alors en fait, on s'est servi d'une séquence d'IRM qui s'appelle le tenseur de diffusion, qui permet de mesurer la façon dont l'eau se comporte dans la substance blanche profonde quand elle est soumise à des gradients magnétiques. Dans un cerveau normal, dans un cerveau sain, l'eau est assez tenue par les axones. Elle peut se déplacer dans une certaine direction, le long de l'axone. Et plus l'axone est abîmé, plus la myéline est abîmée, plus l'eau va se déplacer latéralement à cet axone. Donc, elle va se comporter différemment d'un cerveau sain. Et il y a une corrélation très forte entre la façon dont l'eau se déplace par rapport à un cerveau sain chez le cerveau malade et le pronostic. Plus la différence est grande dans ce déplacement de l'eau, moins bon sera le pronostic.
Ça veut dire que vous avez un outil d'observation qui peut permettre aujourd'hui d'annoncer, voire de prédire une sortie du coma, ou en tout cas de penser qu'elle peut arriver.
Alors, on définit différents seuils. Il y a un seuil au-dessus duquel, dans ces différentes mesures qu'on effectue sur le cerveau du patient, qui est comparé à des cerveaux sains, pour une machine donnée, il y a un seuil au-dessus duquel on est à peu près certain que le malade va émerger de son coma, quel que soit son état, et qu'il suffit d'attendre. Et il y a un seuil en dessous duquel on est certain qu'il n'y aura pas de retour à une vie relationnelle de qualité. Donc le malade restera végétatif ou post-relationnel ou dans un état grabataire à un an ou à six mois. Et puis il y a une zone grise au milieu dans laquelle il faut refaire l'IRM ou continuer les examens cliniques. Donc on a des zones de certitude et une zone d'incertitude.
Vous vous rendez compte de toutes les implications de ce que vous êtes en train de nous expliquer ?
Oui, tout à fait.
Puisque toutes les familles françaises qui à un moment ou à un autre ont été confrontées à une question de ce type et je dirais en plus au dialogue qu'elles avaient avec les équipes médicales que vous représentez aujourd'hui pour savoir ce qu'il fallait faire, si on arrête par exemple des soins ou si on les maintient ou si l'espoir est permis, entendre ce matin quelque chose qui est une forme de bouleversement.
Non mais je sais tout à fait, le bouleversement c'est un enjeu médical majeur, c'est une nouvelle mesure cérébrale qui en plus est extrêmement robuste, reproductible, qu'on peut étendre d'un centre à l'autre. Oui, je sais tout à fait l'impact que ça a et c'est assez émouvant d'ailleurs.
Elle est fiable ?
La mesure est extrêmement fiable, oui. Elle est totalement reproductible et à partir du moment où c'est bien mesuré, il y a pas mal d'artefacts de mesure possibles, il faut être très vigilant à ce que ces artefacts soient bien identifiés et quand il y en a un, de pas rendre de résultats, bien sûr.
Ça veut dire que tout le monde peut le faire ?
Il faut se donner un petit peu de mal. Il faut calibrer la machine d'IRM, il faut qu'il y ait certaines séquences sur l'IRM, il faut un ventilateur dans la machine d'IRM, il faut des équipements et une compétence des équipes médicales et radiologiques.
Alors, je prends un exemple évidemment précis et par définition, j'allais vous dire, affectif, polémique et qui nous a tous concernés. Est-ce que ça veut dire que, avec ce que vous nous annoncez maintenant, il n'y aura plus d'affaire Vincent Lambert, un jour, dans notre pays ?
Je dirais pas tout à fait ça, parce qu'il y a, d'abord, il y a une zone grise, il y aura toujours des familles qui refuseront l'évidence médicale, même aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a des gens qui refusent de croire à qu'on peut mesurer le cerveau, parce que c'est vrai que c'est un seuil qu'on n'avait pas franchi jusqu'à maintenant. On mesure facilement le rein, le foie, le poumon, mais mesurer le cerveau, c'est un seuil psychologique difficile. Donc il n'y aura pas plus d'affaires à Vincent Lambert, et puis c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'informer au mieux les individus, les familles, et puis de prendre en concertation avec eux les meilleures décisions possibles pour le malade.
Mais oui, mais vous êtes bien consciente des responsabilités en cascade que ça génère. Vous avez un outil exceptionnel qui est en train d'être mis en place, et donc il va soulever un nombre de questions phénoménales.
Tout à fait d'accord.
C'est pas pour ça d'ailleurs qu'il fallait surtout pas y aller. C'est un bouleversement ?
Nous, c'est une technique qu'on utilise depuis des années sur le groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière. Donc pour nous, ce n'est pas un bouleversement, mais effectivement, c'est une nouvelle culture. Il y a une acculturation des médecins réanimateurs à faire aussi.
Oui.
Et c'est un bouleversement que de mesurer le cerveau de façon simple et robuste. Jusqu'à maintenant, c'est un organe qui est considéré comme tellement complexe qu'on ne peut pas le mesurer. Et là, on s'est adressé à une mesure extrêmement anatomique, physiologique, qui ne dépend pas de l'état de la sédation. On est complètement indépendant de l'état de sédation du patient, des médicaments qu'on peut lui administrer que paradoxalement, dans le coma, il faut souvent donner des médicaments pour renforcer la sédation. La mesure est indépendante et elle est extrêmement robuste parce qu'elle mesure simplement comment l'eau se comporte dans la substance blanche profonde.
On a compris en tout cas que vous avez désormais un outil très important pour connaître l'état du cerveau des patients, notamment dans le coma. Merci beaucoup Louis Pubasset. Je rappelle que vous êtes le chef du département d'anesthésie et réanimation de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Très bonne journée à vous.